Il est 19h21.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Alors nous y voilà, nous aussi donc à ces fameux quotas, comme certains pays l'ont déjà instauré, avec des résultats que l'on commentera d'ailleurs peut-être ici ce soir. Les quotas vont être instaurés. Le Premier ministre a parlé de reprendre le contrôle de la politique migratoire, fermer les guillemets. Pour ça, il a aussi parlé de lutte contre la fraude, pour ce qui est de l'aide médicale d'État, d'un délai de carence de 3 mois pour l'accès à la protection universelle maladie, qu'on a longtemps appelée la CMU. Souvenez-vous, et enfin la protection maladie des déboutés du droit d'asile passe de 1 an à 6 mois. En tout, des mesures, il y en a 20. Alors, de qui on parle? On parle de quel choix? On parle de quel quota? On parle de quel métier? On parle de combien de personnes réellement concernées? On parle de quelle efficacité aussi? Durcir le droit d'entrée, maîtriser les flux, choisir les entrants, dégrader le droit du sol, remettre le droit du sol, parler regroupement familial, revenir sur le regroupement familial, reconduire à la frontière, freiner les reconductions. Tous les 2 ans, on revoit les règles. Alors, est-ce que ce projet fera bouger les lignes? Et pourquoi faire? Eh bien, on en parle tout de suite ensemble et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Daniel, c'est vous qui commencez. Bonsoir Daniel et bienvenue.
Bonsoir, merci de prendre mon appel et merci à toute l'équipe. En fait, moi, sur cette question des quotas, je voulais partager un peu ce point de vue que vous me disiez, si je me trompe quelque part. Ces quotas, pour moi, ce sont 2 choses. D'une part, racoler sur les terres du Rassemblement National, bien sûr, de toute évidence, mais surtout, c'est peut-être rajouter une couche et atteindre les rêves les plus inavoués du MEDEF, à savoir obliger à prendre 700 000 emplois, peut-être non pourvus, sans se poser les questions de pourquoi. Peut-être mal payés, peut-être des emplois dégradants, peut-être des emplois en horaire décalé, ainsi de suite. Donc, 3 millions de chômeurs qui ne les prennent pas. Pourquoi? Peut-être pour les raisons que j'ai dites. Alors, on leur met la pression en baissant les allocations chômage, en baissant les aides sociales qui coûteraient un pognon de dingue, soi-disant, et en plus, on rajoute les quotas, on les met en compétition, ces personnes-là, avec la misère humaine internationale, en les mettant en compétition avec les réfugiés économiques. Soit dit en passant, on parle là de 10% de 300 000, donc certainement pas 700 000 personnes. Donc c'est, même mathématiquement, c'est absurde.
Alors on reviendra effectivement sur ces chiffres-là. Pardon Daniel, je vous ai interrompu, finissez.
Ben, en fait, j'avais fini. Ma question, c'est est-ce que cette analyse-là, elle est erronée et pourquoi?
Eh ben, merci beaucoup pour cette entrée en matière. Dites-moi, pour une entrée en matière, c'est une entrée en matière pour en discuter ensemble jusqu'à 20h ce soir au téléphone. Sonne François Héran et là, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Migration et Société, sociologue et démographe. Et bonsoir, Hippolyte Dalbis.
Bonsoir.
Professeur à l'École d'économie de Paris, directeur de recherche au CNRS. Et bonsoir à vous, Laurence Perron.
Bonsoir.
Du service politique de France Inter. J'ai commencé avec vous, François Héran. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Daniel? Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à Daniel?
Il y a beaucoup de dimensions dans sa question. Mmh. Il y a d'abord quota.
Ouais.
Quota, je pense que la principale nouveauté, la mesure qui a été annoncée, c'est d'avoir appelé quota ce qui était déjà pratiqué sous Sarkozy et qu'on n'appelait pas quota. On parlait de contingent, de plafonné, de choses comme ça, de plafond. Et le quota, dans notre tradition républicaine, c'est évidemment une transgression. Alors, il y a le plaisir de la transgression à utiliser ce terme-là et à se dire, voyez, on n'est pas si loin, finalement, des gens qui accusent la gauche d'être prise dans ces tabous.
Vous voyez, on n'a pas peur.
Voilà. Alors, les tabous, vous savez que sans tabou, ça veut dire, en bon français, sans complexe, sans vergogne, sans principe, enfin, c'est ça que ça veut dire, sans tabou. Mais là, ces quotas, ils existaient. La politique d'immigration choisie qui avait été lancée par Sarkozy, qui a été globalement un échec.
Qui n'a pas duré longtemps, hein, 2011,
oui,
c'est
oui,
fini.
Oui, qui a été remise en cause au bout de quelques années. Ça a été de dire qu'effectivement, il fallait, par bassin d'emploi ou par département et par secteur d'activité, dire combien de personnes on pouvait recruter sans que ce soit opposable à la situation du chômage. Et donc, il fallait identifier des métiers en tension, c'est-à-dire où on n'avait pas suffisamment de candidats d'origine française. C'était une usine à gaz. C'est très compliqué à mettre en œuvre parce que ça durcit tout, ça fiche tout. C'est très difficile de prévoir ce qui va se passer dans un an, dans tel secteur, dans tel bassin d'emploi, dans
et d'ailleurs,
branche.
Il paraît que cette fameuse liste des pays, des métiers mis en tension n'a pas été renouvelée depuis, en fait. Donc, on n'a aucune idée, en fait, aujourd'hui.
Oui, mais la question, c'est de se comprendre pourquoi ça n'a pas été actualisé. Pourquoi on a mis 10 ans à ne pas actualiser ces listes de métiers en tension? Mais parce que ça ne marchait pas. Il faut analyser ça. Au lieu de dire, on va actualiser la liste. Mais actualiser la liste, c'est extrêmement compliqué parce que ces listes de métiers en tension, en réalité, ne marchent pas. C'est une usine à gaz extrêmement complexe. Donc, il faudrait s'interroger là-dessus.
Hippolyte Delvis, là-dessus. D'abord, est-ce qu'on a une explication pourquoi ça marche pas? Parce qu'effectivement, est-ce qu'on a un exemple ailleurs de moments où qu'on les appelle quotas, quel que soit le nom qu'on leur donne, en fait, qui ont prouvé leur efficacité? Est-ce qu'on peut dire ici au moins ça marche? Est-ce qu'on est capable de dire ça ou pas du tout?
Ça marche pourquoi? Vous voyez, quel est notre objectif? Si l'objectif c'est d'attirer des talents, avoir un objectif chiffré, avoir une politique lisible, avoir une politique favorable à l'immigration, ça peut marcher. Voilà. Ça s'appelle pas forcément quota, mais c'est ce qui peut se passer, vous voyez, dans les pays anglo-saxons, comme aux États-Unis, comme au Canada ou comme en Australie. Si ce qu'on cherche à faire, c'est à réduire l'immigration.
J'allais dire, en quoi ça a pu freiner à un moment? Parce que c'est ça, en creux, qu'on essaie de faire.
Je sais pas ce que veut dire marcher ou pas marcher. Je veux dire, aujourd'hui, il y a 20 000 permanents qui rentrent par an, vous voyez, sur des motifs travail, 30 000 si on prend en compte, vous voyez, les saisonniers. C'est très peu. C'est 0,13% de la population active. Je veux dire, oui, en effet, c'est complètement fermé. Ce qui est intéressant peut-être avec cette annonce des quotas, passant les effets de manche ou passant, je veux dire, peut-être tout le discours politique, c'est quand même de reconnaître qu'il y a des besoins d'emploi dans la société française, qu'il y a des entrepreneurs et des entrepreneuses qui ont besoin de recruter et qu'il faut faire quelque chose. Et que peut-être que l'immigration est une solution à ça. Mais pas seulement. Vous voyez, il peut y avoir aussi de la migration au sein du pays. Vous voyez, en annonçant qu'on a des besoins, vous voyez, dans une certaine région, ça peut aussi donner des idées à des Français d'autres régions.
Laurence Piron, j'ai vu que vous vouliez intervenir, mais avant vous, je voudrais qu'on écoute Thierry, parce que précisément, il est chef d'entreprise, et donc il va pouvoir nous expliquer, lui, comment il fonctionne. Bonsoir Thierry.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Donc, je suis chef d'entreprise d'une petite société en pasturgie, et aujourd'hui, je suis à la recherche à la fois de personnel de base, c'est-à-dire des gens qui sont tourneurs-fraiseurs ou des régleurs, enfin des métiers qu'on ne trouve plus du tout en France, qui ne sont plus formés. Et mon souci, c'est que n'en trouvant pas, je vais être obligé de me tourner, comme d'autres collègues l'ont fait, vers une immigration choisie, principalement en Afrique du Nord.
Et vous l'avez déjà fait, vous allez le faire, Thierry?
Non, je vais le faire. D'accord. Je vais le faire, mais d'autres collègues dans d'autres entreprises l'ont déjà fait. On trouve plus de décolleteurs. Enfin, les sociétés de décolletage aujourd'hui cherchent des gens qui sachent faire du tournage, du fraisage, enfin de la mécanique. Mm-hmm. Et on ne trouve personne. Et aujourd'hui, c'est tellement important et tellement grave qu'on ne prend plus de marché. On ne peut plus prendre de marché parce qu'on ne trouve plus de personnel.
Merci beaucoup Thierry pour ce témoignage. François Héran, vous vouliez intervenir?
Oui, parce que finalement les quotas, ça peut avoir deux significations. Soit c'est on les prend dans le sens restrictif, on utilise les quotas pour avoir moins d'immigration, soit on utilise au contraire les quotas et à ce moment-là, on parle d'objectifs. Hein, les Canadiens ne parlent pas de quotas, ils parlent d'objectifs. Et c'est pour effectivement satisfaire des besoins qui, après toutes
garder
les tentatives...
des métiers à flot, en fait.
Oui, après toutes les tentatives possibles imaginables, n'ont pas réussi à recruter en France, comme ça vient très bien d'être dit. Le Canada, qui est cité en exemple, que Muriel Panicot a cité en exemple dans son interview, c'est pas du tout un modèle. Enfin, c'est complètement différent de notre situation, parce que eux, ils se fixent des objectifs pour les trois prochaines années, des objectifs en hausse de l'ordre 300 000, 330 000 travailleurs à introduire. 1% de la population. Mmh. C'est comme si nous, on introduisait 600 000 personnes par un système sélectif. Vous voyez l'échelle. Et dans ces 600 000, en gros, il y a à peu près 60% de travailleurs choisis en fonction de leurs compétences professionnelles, de leurs diplômes, de leur connaissance des langues, etc. Et on n'est pas du tout dans ce système. Alors, sauf que il y a une espèce d'ambivalence qui est cultivée entre les différents membres du gouvernement. Les uns ont l'air de tourner la tête vers cette solution libérale, comme on l'appelle parfois, et qui était visée par notre premier auditeur. Et les autres veulent au contraire dire non, nous contrôlons tout. Alors est-ce qu'on contrôle en augmentant l'immigration? Est-ce qu'on contrôle en uniquement en réduisant l'immigration? C'est tout le dilemme.
Parce que le gouvernement Fabien, au départ, voulait absolument... Enfin, il était question que ce soit une immigration choisie par nationalité. Et ça a été complètement abandonné, ce qui aurait été un signe donné... Ah oui, effectivement, très droitier. Mais à un moment donné, c'est comme ça. Ce que veut le Rassemblement National, c'est une immigration choisie fonction des métiers, mais fonction aussi des nationalités. Il considère que l'Afrique subsaharienne, par exemple, nous envoie beaucoup trop de travailleurs étrangers.
Il y a eu, si vous voulez, c'est ça qui est intéressant, il y a eu toute une série d'annonces qui ont été faites dans le mois de septembre et qui finalement ont été un peu démenties là, dans ce qu'on vient de voir. La plus importante, c'est que, interrogé par un journaliste à la fin de sa conférence de presse, Édouard Philippe a dit non, il ne s'agissait pas du tout de rendre la France moins attractive.
Alors que
dans l'interview à Europe 1, Emmanuel Macron avait très exactement dit, c'était plein que la France soit trop attractive, je le dis franchement, il avait même insisté là-dessus. Donc, on est en retrait, manifestement, par rapport aux annonces qui avaient été faites en septembre.
Hippolyte Delbijou voit patienter, allez-y.
Non, je trouve que le témoignage de l'auditeur est assez magnifique, parce que c'est vraiment l'expression du fait que, en effet, les étrangers ne prennent pas les emplois des locaux.
C'est exactement la question que j'allais poser. On a l'impression que c'est toujours cette image d'Épinal, mais non, c'est vrai.
Cette image, elle reste, elle est très forte, elle est promue par de nombreuses personnes depuis longtemps.
Et c'est l'image du gâteau à taille fixe.
Voilà. Et en fait, c'est pas ça ce qui se passe. Il peut y avoir dans une économie à la fois des chômeurs et des emplois vacants. Et c'est bien ce qu'illustre ce témoignage. Et merci monsieur de l'avoir fait. Parce que voilà. Maintenant, tout le problème, c'est que c'est un véritable parcours du combattant que de recruter une personne à l'étranger. Vous voyez, il va falloir déposer un dossier qui va transiter par un grand nombre d'administrations. L'étranger qui potentiellement pourrait être recruté va devoir faire une demande de visa dans son pays, ensuite une demande de titre en France lorsqu'il arrive, etc. On a une machine qui est extrêmement lourde, vous voyez, et il va y avoir énormément de vérifications sur les conditions de logement, sur les conditions de salaire. Je reviens un petit peu sur ce qui a été dit précédemment.
Et le regroupement familial, puisque tout marche en même temps, à un moment ou à un autre, ça viendra aussi sur le
terrain. Ce qui est intéressant, c'est que c'est toute cette bureaucratie très très lourde, elle pèse surtout sur les petites entreprises, alors que les grandes entreprises, elles arrivent beaucoup mieux à instruire les dossiers de demande de recrutement.
Voilà. Et donc, si maintenant le système des quotas alourdit encore plus la machine, bon, je veux dire, on aura tout perdu. Alors là, on ne voit même plus l'intérêt. De toute façon, il y a très peu de ces types d'immigration.
Est-ce que pourquoi il l'alourdirait, en fait? Est-ce qu'il y aurait un moyen de simplifier, si on voulait aider un peu plus notre ami Thierry qui nous a tout à l'heure, est-ce qu'il y a un moyen de simplifier ces choses-là, ou est-ce qu'au fond cette lourdeur-là est inhérente de toute façon au
en
système?
En effet, dans un système, je dirais, qui fonctionnerait bien, il y aurait une administration en charge d'évaluer les métiers en tension, qui fait la publicité sur ces métiers en tension, éventuellement c'est discuté au Parlement ou au gouvernement, qui fixe finalement des objectifs, des limites à ne pas atteindre, et à partir de là, le recrutement, si je puis dire, d'étrangers dans ces entreprises est quasi automatique. Je veux dire, oui, parfois, donc, vous avez certains pays qui excèdent le nombre de demandes excède le quota. Hein, c'est typiquement, par exemple, aux États-Unis. Donc, alors, ils vont procéder à des loteries. Mais il y a d'autres pays qui ont fixé des quotas et il y a beaucoup moins de monde qui vient. Le quota ne fait pas tout. Ce qui fait l'intérêt, ce qui compte, c'est l'attractivité du pays. Voyez.
Laurence Perron, puis on retourne au standard.
Ce que je trouve très intéressant, c'est que là, on est en train de parler du marché du travail et des tensions sur le marché du travail français. Là où Édouard Philippe commence quand même sa conférence de presse en expliquant que il nous faut mieux contrôler l'immigration. Donc en réalité, la commande qui lui a été faite très clairement, c'est de montrer à un pays qui ressent l'immigration, le droit d'asile qui a effectivement, les demandes et les attributions de droit d'asile qui ont un peu augmenté, comme quelque chose d'un petit peu perturbant. Et en réalité, on s'attache à des quotas qui en réalité sont là pour éventuellement répondre à une nécessité du marché du travail, mais c'est pas du tout ce qu'Édouard Philippe avait pour ambition de faire au départ. Et c'est là où, en fait, on est dans un débat qui est un peu cacophonique en réalité. Je sais pas ce que vous en pensez, François Héran, mais c'est vrai que c'est très bizarre.
Se contrôler, c'est pas réduire.
Oui, voilà, c'est ça.
Contrôler, c'est pas réduire. Je pense qu'il y a un reproche qui est très souvent fait, si je puis dire, aux puissances publiques, aux pouvoirs politiques, c'est de ne pas maîtriser la migration. Et je pense que le discours doit peut-être être plus évalué à l'aune de ce besoin de montrer qu'il maîtrise des choses, plutôt que de réduire.
C'est ça sa phrase d'ailleurs, la phrase qu'il a
prononcée. Oui, vous savez, c'est un
reprendre le contrôle.
C'est un vieux problème de la politique migratoire. La marge de manœuvre des politiques reste quand même très très faible. Chaque gouvernement reproche au précédent de n'avoir rien fait, d'avoir été laxiste, d'avoir laissé filer les choses, etc. C'est le même discours qu'on entend à chaque nouveau gouvernement. C'est toujours la même chose. Mais en réalité, la marge de manœuvre est très étroite. Pourquoi? Parce que le marché du travail a ses lois et on vient de le voir, et qu'il y a des ministres ou des administrations compétentes qui disent, après les premières déclarations très improvisées et très spontanéistes, comme ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça, voyez la réalité. Idem pour l'asile, vous avez les juristes, les conseillers juridiques qui disent, on a des conventions internationales, on ne peut pas toucher au regroupement familial, par exemple.
On est à l'os, je crois que c'est chez vous que j'ai lu ça, on est à l'os à un moment sur certaines choses qu'on ne peut pas réduire non plus, effectivement, il y a des choses
mais ça, on le sait depuis longtemps, mais c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi des déclarations totalement improvisées ont été faites au mois de septembre, et maintenant on est bien obligé de revenir d'ici et d'arriver à des solutions beaucoup plus raisonnables.
On le disait tout à l'heure en introduction, effectivement, il y en a à peu près, en préparant cette émission, je me suis rendu compte que c'était à peu près tous les 2 ans, en fait, des projets, sans parler d'une grande loi sur l'immigration, mais enfin, ça bouge effectivement très très vite. Moi, du coup, j'ai une vraie question naïve. Est-ce que toutes ces modifications, de toute façon, apportent un changement en profondeur, au fond, sur les chiffres de l'immigration en France, ou de toute façon, pas du tout?
Je pense que toutes ces mesures contiennent manifestement les flux migratoires, incontestablement. Par exemple, le regroupement familial est extrêmement stable, les motifs familiaux, les titres de séjour pour motifs familiaux qui vont au-delà du simple regroupement familial, c'est extrêmement stable depuis une quinzaine d'années. Donc, sans toutes ces mesures de contrôle, sans doute les chiffres auraient été plus élevés. Donc, ça stabilise, mais l'idée qu'il faudrait réduire drastiquement, comme le disent par exemple certains députés de droite, qu'il faudrait diviser par 4 ou par 10, ou par ça, c'est totalement irréaliste. Enfin, ce sont des gens qui vivent dans un autre monde. On ne peut pas dire des choses pareilles si on a un minimum de sens des réalités.
Hippolyte Dalby, si on retourne au standard, allez-y.
Oui, avec plaisir. C'est vrai que là, on parle de la migration qui nécessite un titre de séjour, c'est-à-dire une autorisation de la part de la puissance publique, du gouvernement, de l'administration, pour séjourner. Mais il y a toute une partie de la migration, finalement, qui n'est pas soumise à cette autorisation, c'est la migration interne à l'Union européenne, parce que nous sommes dans une zone de libre circulation. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup d'étrangers, mais qui viennent et qui séjournent en France de ce fait. Donc ce sont les Européens.
Et c'est important de le rappeler parce que c'est aussi ce que disent les chiffres, alors que c'est ce que disait Laurence tout à l'heure. Évidemment que dans l'esprit des gens et politiquement, notamment du Rassemblement national, c'est évidemment pas de cette migration-là que nous parlons, c'est le moins qu'on puisse dire. Valérie, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Valérie.
Donc, moi, je suis conseillère municipale sur la ville de Rennes. Je suis élue du groupe écologiste et je suis, avec les associations, la situation d'un certain nombre de migrants sur Rennes. Et je m'interroge vraiment sur la volonté d'efficacité politique du gouvernement, dans la mesure où, pour les dossiers de demande de régularisation, la préfecture d'Ille-et-Vilaine, depuis des années, impose que les demandeurs aient une promesse d'embauche, ce qu'ils ont, puisque pour avoir un dossier valide, ils en déposent. Et les 3/4 du temps, la préfecture ne donne pas suite à leurs demandes, les déboute, alors qu'ils ont une promesse d'embauche, et notamment dans des secteurs sous tension de notre département d'Ille-et-Vilaine, qui est en forte croissance démographique. Alors j'ai des exemples, notamment dans les abattoirs, où des directeurs de gros abattoirs n'obtiennent pas satisfaction sur des exilés qui pouvaient prétendre à un emploi. Et voilà, donc je pense que l'État est dans un affichage politique qui moi ne peut pas me convenir politiquement, bien entendu, et ça déjà au moins accorder des titres de séjour à des gens qui ont des promesses d'embauche, ce serait un moyen d'être assez rapide et justement de ne pas rentrer dans la lourdeur des quotas.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Valérie. François Héran.
Oui, là, je pense que vous faites allusion aux admissions exceptionnelles de séjour, qui sont des régularisations au cas par cas, qui existent depuis longtemps, qui se pratiquent toujours, qui ne sont pas en nombre considérable, et la part de ces admissions exceptionnelles au titre du travail est relativement semblable à la part de la migration de travail dans l'ensemble des titres de séjour, donc relativement faible, mais c'est vrai que là, vous mettez aussi le doigt sur un très gros problème de l'administration au séjour, mais aussi de toutes les autres phases de l'intégration, c'est l'extrême variabilité des décisions d'une préfecture à l'autre. C'est le fait qu'on n'est plus dans un État centralisé de ce point de vue-là, que les associations qui préparent des dossiers, et là, des dossiers, c'est souvent une vingtaine de pièces, ou une trentaine de pièces, c'est un travail considérable, s'aperçoivent que les décisions sont tout à fait discrétionnaire et discrétionnaire parfois même arbitraire. Quoi. Mm-hmm. Et donc, d'une préfecture à l'autre, ça peut varier. Il y a des commissions qui donnent des avis, mais les préfets ne sont pas tenus de les suivre. C'est ce qu'on appelle légalement le pouvoir d'appréciation mm-hmm. des préfets. Ce pouvoir d'appréciation est très inégal d'un lieu à l'autre. Et c'est un... On dit souvent que l'Europe est éclatée du point de vue des décisions concernant l'asile, le directeur de l'OFIS en plaignait récemment, mais la France elle-même est complètement éclatée de ce point de vue-là.
Et du coup, peut-être que là, cette politique des quotas pourrait résoudre une partie du problème, si jamais elle pouvait avoir un effet vertueux.
Hippolyte Delbis, hein.
C'est intéressant comme témoignage, parce que c'est justement la régularisation, c'est justement le moment où, si je puis dire, la puissance publique a la main. Alors, peut-être de façon décentralisée, mais comme on l'a dit tout à l'heure, vous voyez, sur le regroupement familial, finalement, sur les étudiants, sur les demandeurs d'asile, il n'y a pas tellement, finalement, la main sur les flux migratoires, mais sur la régularisation, là, il y a le reflet d'une politique. Et je me plais à croire que, en effet, si on fait un petit peu de publicité sur ces secteurs en tension, l'exemple qui était donné par l'auditrice est extrêmement bon, si on fait un peu plus de publicité sur ces intentions, ça, c'est peut-être d'une certaine manière, un nouveau tournant dans une politique et une autre façon de voir aussi la migration comme des personnes qui contribuent à la société dans laquelle elles vivent.
Et je voudrais qu'on reste sur un domaine très politique, justement, grâce à Gilles. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Gilles, on vous écoute.
Simplement pour dire que je ne crois pas que les quotas d'immigration soient une idée spécifiquement de droite. Que je me souviens que deux personnalités de gauche, dans les années passées, se sont prononcées en faveur de ces quotas d'immigration. Premièrement, Daniel Cohn-Bendit. Deuxièmement, l'ancien président d'SOS Racisme, Malek Bouti.
Et merci pour...
Sont-ce véritablement des personnalités de gauche encore aujourd'hui? La question se pose.
C'est un autre téléphone sonne, Laurence. Mais ça m'intéresse quand même la question de Gilles, François Héran, sur... on parlait tout à l'heure, effectivement, d'une politique d'un côté, une politique de l'autre. Et ensuite, on se mélange et on se confond, effectivement, sur qui est d'accord sur quoi, à droite et à gauche.
Oui, mais tout le problème, c'est vraiment ce qu'on avait évoqué tout à fait au début. Qu'est-ce qu'on entend par quota? Est-ce que c'est des quotas dans le sens restrictif du terme, pour diminuer l'immigration et la contrôler et la tenir au plancher, ou est-ce que c'est des quotas pour réguler effectivement les flux, pour éventuellement fluidifier un certain nombre de choses dans les secteurs qui en ont besoin? Moi, ce qui me frappe aussi quand même, c'est que quand vous regardez par exemple la situation canadienne, j'ai dit à quel point elle était différente, mais il y a un domaine où c'est vraiment étonnant, c'est que si vous mettez sur le site de Citoyenneté Canada ou d'Immigration Canada qui s'occupe de ça, en quelques minutes, vous savez si vous êtes éligible ou pas. Vous savez si vous avez les diplômes nécessaires, la maîtrise des langues. Vous pouvez choisir. Alors, il y a un programme, il y a des programmes provinciaux, il y a des programmes et un programme national qui sont un peu fédéral, qui sont un peu différents, mais vous pouvez déterminer, par exemple, votre secteur d'activité, vos compétences. Il y a des pays comme la Nouvelle-Zélande où les admissibles de ce genre de concours, en quelque sorte, c'est un concours, les entreprises ont le droit d'aller regarder dans le vivier des admissibles et que peut-être ces gens-là n'auront pas le niveau nécessaire pour le concours fédéral, mais auront le niveau intéressant pour les entreprises qui, comme les abattoirs dont on vient de parler, ont besoin de main-d'œuvre. Donc ça, il y a toute la question politique de savoir, mais qui recrute? Est-ce que c'est l'État? Et en France, on a l'impression qu'il faut que ce soit l'État qui recrute, qui contrôle, etc. Est-ce que ce sont les entreprises? Si c'est uniquement les entreprises, elles ne s'occupent pas beaucoup des familles, et du coup, il y a un problème de droit également qui se pose. Est-ce que ce sont des considérations également juridique qu'il faut prendre en compte, c'est ça les problèmes de fond. Et ils ne sont jamais abordés dans tous les débats qu'on vient d'évoquer et dans la conférence qu'on a entendue tout à l'heure.
Vous allez dire, pour l'instant, on n'a pas de piste là-dessus du tout pour comprendre comment les choses vont se passer de ce point de vue-là, non? En tout cas, moi, je n'ai rien entendu, François Héran.
Il faudrait en tout cas, je pense, avoir une vraie évaluation des politiques qui ont été menées en ce sens-là. Je viens d'évoquer le système canadien qui est une espèce de concours sur capital humain. Il y a le système de métiers en tension qui a été appliqué par la Suisse. C'est les Suisses qui ont commencé dès les années 70, ils ont 30 ans, 40 ans d'application de ce genre de système. Ils ont fait des évaluations assez sérieuses. Ça a quand même doublé le nombre de migrants pendant l'intervalle, alors qu'il s'agissait de le réduire. Donc, nous n'avons pas... Si je regarde les rapports qui sont régulièrement faits, soit par l'Assemblée nationale, soit par les inspections générales, etc., c'est pas vraiment des méthodes d'évaluation très solides. C'est quand même très flottant, très descriptif. On n'a pas vraiment une comparaison stricte quand il y a une mesure qui été prises de l'avant et de l'après. Enfin, mais là, je suis un peu sur le terrain des économistes qui, eux, ont des méthodes beaucoup plus rigoureuses pour évaluer l'impact d'une politique.
Et Fabienne, juste pour répondre à votre question,
rentrez sur votre terrain, monsieur Dalbis.
Le premier ministre a annoncé qu'il y aurait chaque année au Parlement un débat sur ces questions de l'immigration et des quotas. Alors on peut imaginer
si ce débat ressemble à celui qu'on a eu dernièrement, c'était une succession de professions de foi, y compris, d'ailleurs c'était très intéressant,
là, ils ont un an pour le préparer.
À l'intérieur de chaque parti, il y avait des positions extrêmement variables, y compris au sein de La République En Marche, il y avait des positions très humanitaires, d'autres très sécuritaires, avec tous les spectres intermédiaires. Bon, c'était intéressant, mais on ne débattait pas. Les gens ne débattaient pas les uns avec les autres. C'était simplement une juxtaposition de professions de foi. Ça n'a aucun intérêt.
Que dit l'économiste?
L'économiste va rester un instant sur le politique.
Si vous mélangez, c'est comme les politiques d'immigration, on n'aurait plus à s'y retrouver.
Vous savez, sous François Hollande, le motto, c'était immigration zéro. Mm-hmm. Voilà le quota. Mm-hmm. Il était à zéro. On disait, on fait du familial, on prend les demandeurs d'asile. Mais sinon, c'est zéro. Là, on n'est plus à zéro. Mmh. D'accord ? Et le fait de discuter au Parlement, évidemment, il y aura des gens qui ne seront pas d'accord. Mais ce n'est pas grave de ne pas être d'accord. Et ce n'est pas grave au sein d'un parti de ne pas être d'accord. C'est quand même ça un petit peu la démocratie. Eh bien, discutons et ayons un objectif qui résulte, en effet, du consensus ou de la majorité nationale. Et à partir de là, ayons une politique claire. Si finalement, évidemment, il peut y avoir un petit peu de... Ouais, ça peut être un peu brouillon au début, mais si au final... on ressort avec une politique qui est plus claire, qui est plus affichée, où le gouvernement dit, sur ces composants-là, en effet, on n'a pas tellement la maîtrise, mais sur ceux pour lesquels on a la maîtrise, dont le travail, voici nos objectifs, je trouve qu'on sort par le haut.
Dominique, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Dominique.
Oui, moi, je voulais juste apporter un témoignage que j'ai vécu il y a déjà quelques années. À l'époque, on parlait d'introduction de main-d'œuvre étrangère et que c'était assez... régulé par les préfectures et par les DDTEFP à l'époque, où j'avais assisté à une discussion avec un représentant, le président du syndicat des agriculteurs de la zone où j'étais, et qui comparait la capacité à produire du Tunisien, du Marocain, du Chinois, et qui tenait des propos, qui moi j'avais trouvé profondément choquant. Et j'ai peur et je suis très dubitative sur la notion de quota. Est-ce qu'on réfléchit uniquement en besoins, en ressources pour une économie? On a déjà fait ça, on a déjà fait venir à une époque des immigrés pour qu'on reconstruise la France et il y avait un besoin économique. Et on ne réfléchit pas en fait en termes d'être humain. Et pour moi, ça pose un problème philosophique réel, quoi.
Et merci.
C'est pas de la marchandise. Voilà.
Et merci Dominique pour votre remarque, j'allais dire votre question, votre remarque, François Héran, pour lui répondre. Les mots ont un sens, oui. C'est ce qu'on disait d'ailleurs quand on parlait de l'utilisation du mot quota ou pas.
Alors écoutez, on revient de loin et notamment c'est vrai que tout le passé colonial a beaucoup pesé sur les politiques migratoires au début, après la guerre, etc. Et il y a eu tout un débat qui a été très très bien raconté par Patrick Veil dans son livre sur l'histoire des politiques migratoires, où effectivement il y avait toute une hiérarchie, il y avait une partie de la fonction publique de haute administration qui avait une idée de la hiérarchie ethnique, des capacités, de la docilité du travail. On disait par exemple que les Kabyles c'était beaucoup mieux que les Arabes, il y a ce genre de considérations. Et quand il a fallu mettre au point toute la législation sur la migration, tous les défenseurs de ce genre de choses qui voulaient mettre ça dans les textes ont été complètement battus, n'ont pas réussi à introduire dans les textes ces considérations-là, c'est-à-dire des quotas finalement par nationalité ou par origine. Mmh. Et les textes ont une tonalité quand même universaliste, qui se traduit notamment par l'accès à la protection sociale, par un certain nombre de choses, qui ont battu en brèche toute cette théorie-là. Alors, elles ressurgissent quand même toujours un peu, et on sait, et ça a été étudié par Sylvain Laurence, qui est un jeune chercheur qui a travaillé sur la façon dont les politiques migratoires ont été mises en œuvre dans les années 60-70, il y avait quand même, par exemple, l'idée qu'il fallait miser à fond sur la migration ibérique pour compenser la migration maghrébine. Il y a eu des stratégies comme celle-là, mais elles n'étaient jamais vraiment écrites ou explicites. Mais enfin, on a pu montrer, en étudiant les archives, que ces considérations-là sont intervenues pas mal dans les années 60-70. Aujourd'hui, j'espère que c'est totalement banni, mais enfin, on voit bien qu'il y a eu des considérations encore assez récentes sur l'excès d'étudiants africains par rapport rapport aux étudiants d'autres continents, enfin, qui montre que ça continue toujours un peu d'affleurer et il faut être vigilant là-dessus.
Alors, je comprends tout à fait l'intervention de l'auditrice, je la remercie. Je pense qu'elle a raison. Les mots ont un sens. En effet, ce sont des personnes. Je ne pense pas que dans le cadre de la politique de migration légale et notamment de la migration professionnelle, on traite les gens comme des marchandises. Je pense que c'est tout le contraire. Justement, l'administration fait très attention à ce que ces personnes aient des salaires dignes, que ces personnes aient des bonnes conditions de logement, que ces personnes ne soient pas justement traitées comme des marchandises. Et je veux dire, l'alternative, lorsqu'on la maintient à des niveaux très faibles, l'alternative, on voit bien d'où elle vient. Elle vient soit du travail clandestin, où justement les personnes sont traitées comme des marchandises, ou elle vient finalement d'une voie légale, mais qui est extrêmement préoccupante, que sont les travailleurs détachés. Parce que se met en place quand même, pour répondre aux besoins des entreprises, pour répondre aux besoins de l'économie, tout un système, finalement, où, sous couvert de mission, il y a des gens qui travaillent en France avec des conditions de protection sociale qui ne sont pas celles de la France. Et les montants sont colossaux. Aujourd'hui, on parle de 250 000 travailleurs détachés par an. Vous voyez, comparé à nos 20 000 migrants professionnels. Ouais. Le scandale, il est là, il faut savoir ce qu'on veut. Justement, la migration, c'est bien traiter les gens, c'est justement les accueillir dans notre société. Ils ne vont pas faire que travailler. Hein. Madame, vous avez raison, ils vont s'insérer aussi, ils vont avoir d'autres activités.
Et puis, les familles qui vont suivre.
Et puis, la famille, il y a les enfants,
et puis ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais voyez, et là, on parle du travail, parce que voilà, c'est le motif pour lequel ils vont rentrer en France. Mais ce n'est pas tout. Et bien sûr que leur vie sera plus riche. Néanmoins, ils seront protégés socialement, notamment, contrairement à ce que peuvent être certains travailleurs détachés. En France, pas tous, hein, mais certains.
Laurence Perron.
Et l'angle mort, effectivement, du plan, enfin, du programme présenté comme ça par le Premier ministre, c'est effectivement le travail clandestin et la lutte contre le travail clandestin dont il n'a même pas prononcé le mot. Je me souviens de Nicolas Sarkozy en 2010 avec des discours assez martiaux. Lui, il l'abordait toujours en faisant peser sur les entreprises une partie de cette lutte.
Oui, alors c'est sur la question des réguliers, irréguliers, clandestins, etc. C'est ce qui est très compliqué dans le cas français, c'est que on s'imagine souvent, et notamment on entend ça dans les discours politiques, qu'il y aurait deux espèces d'humanité, celle qui viole les règles, qui est dans l'irrégularité, et puis celle qui la respecte. Mmh. Et le problème, c'est que quand on regarde les trajectoires des gens, eh bien, un très grand nombre de personnes qui sont maintenant en situation régulière sont passées par des périodes irrégulières et vice-versa. Les deux catégories ne sont pas du tout étanches. Il y a une zone grise entre les deux, il y a des passages de l'un à l'autre. Je compare ça parfois à la distinction du jour et de la nuit. Voilà, il y a le jour, il y a la nuit, mais enfin, il y a de l'aube, il y a du crépuscule, il y a une zone grise, on passe du jour à la nuit réciproquement. Et alors, souvent, quand je dis ça, les gens me disent, mais alors, il n'y aura plus de distinction entre régulier et irrégularité. À vous entendre, ce serait il n'y a plus de distinction entre le bien et le mal, n'est-ce pas? En réalité, il faut aussi être réaliste et savoir qu'il y a toutes ces zones grises complexes. Il faut effectivement les réduire au maximum, mais l'idée qu'on puisse tracer une limite complètement étanche entre la régularité et l'irrégularité, ça, c'est quelque chose de tout à fait irréaliste.
Tiens, il y a cette question qui nous fait aller sur un autre terrain. On reviendra dans un instant au quota. J'allais dire, j'en ai bien peur, parce que c'est là-dessus que les auditeurs sont très très concentrés. Mais on a Didier de Nogent-sur-Marne qui nous parle. Y a-t-il un vrai risque sanitaire de cette fameuse restriction de la PUMA avec ces 3 mois de carence? Oui ou non? Y a-t-il un vrai risque sanitaire? Alors, on est d'accord. On parle des demandeurs d'asile. On parle de ces 3 premiers mois seulement. On n'enlève pas l'urgence. Et c'est important de le souligner. Mais y a-t-il réellement un vrai risque? Et la question que moi j'ai envie de poser d'ailleurs derrière, y a-t-il un vrai tourisme médical, une vraie fraude de ce genre-là pour qu'on considère qu'il faille effectivement instaurer ces fameux 3 mois de carence?
Alors, c'est deux questions différentes. Mm-hmm. La première, la réponse est oui, il y a un risque, parce que les enquêtes épidémiologiques qui ont été faites, qui sont des enquêtes extrêmement sérieuses, je pense à l'enquête Parcours qui a été financée par l'Agence nationale de recherche sur le sida, je pense à l'enquête Premier Pas qui a été faite par l'IRDES, enfin par des chercheurs qui ont tout à fait pignon sur rue, montrent que si les migrants sont un peu sélectionnés, c'est plutôt les gens en bonne santé globalement qui arrivent. En moyenne, les migrants, quand ils arrivent à âge égal, sont en meilleure santé que le reste de la population française. Il y a un effet de sélection, comme on dit. Mais ensuite, très vite, la situation sont se dégradent parce que les installations sont très longues. Et ce qui apparaît par exemple dans l'enquête parcours, c'est que pour pouvoir être installé en France correctement, il faut avoir un logement, un emploi et un titre de séjour. Et ces trois choses-là, les avoir toutes les trois, ça met du temps, ça met plusieurs années pour un certain nombre de gens. Et du coup, cette vulnérabilité, être sans logement, passer parfois des nuits dehors, être sans emploi, etc.,
fait que la santé se dégrade.
Ça dégrade la santé.
Évidemment.
Et au bout de 7-8 ans, l'état de santé des migrants, alors qu'il était supérieur à celui du reste de la population, devient de moindre qualité. Et il faut ensuite très longtemps pour que ça remonte, une fois l'installation vraiment stabilisée.
La raison pour laquelle on instaure ce fameux délai de carence, c'est de dire, mais attention, fraude, tourisme médical, etc. Est-ce qu'on sait statistiquement ce que ça représente vraiment? Est-ce que oui, il y a un vrai souci de tourisme médical et de fraude? Est-ce que ça existe vraiment, ça, ou pas?
Vous voyez, dans le cas des demandeurs d'asile, un demandeur d'asile, c'est pas un touriste, ou c'est pas...
C'est pour ça que je pose la question, j'ai du mal à comprendre comment on fraude ce genre de choses.
Attention à la terminologie, en plus, parce qu'il y a une auditrice qui nous a alertés, peut-être pas forcément réutiliser trop souvent ce type de terminologie qui sont très, très, très frappantes. Un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui est là légalement en France. Il a obtenu un droit de résider en France le temps que sa demande d'asile est examinée. Voilà, donc il arrive très souvent, ce sont des problèmes psychologiques, des problèmes psychologiques importants, étant donné le parcours.
On est d'accord, mais du coup, j'ai du mal à comprendre ce que nous apportera,
les arguments en faveur de cette thèse ont été abordés dans le rapport de l'IGAS et de l'IGF que j'ai lu cet après-midi, qui est un rapport très circonstancié, tout à fait intéressant, en même temps très prudent. Qui, par exemple, analyse un certain nombre de cas, et si quelqu'un qui a un diabète bénéficie de l'AME, mais ce diabète avait déjà été diagnostiqué dans le pays d'origine, il peut y avoir une suspicion qu'il soit venu en France pour se soigner. Ce sont ces cas-là et on parle de suspicion, de présomption, etc. Le rapport de l'IGAS est à la fois prudent et affirmatif.
Enfin, ça veut dire qu'on ne sait pas,
on ne sait pas, il faudrait sans doute en savoir plus, mais maintenant, est-ce que le fait de migrer pour améliorer sa santé, c'est nécessairement quelque chose qui... Moi, j'étais très frappé l'autre jour sur Arte, il y avait un formidable reportage sur ce nouveau moyen thérapeutique qui existait au 19e siècle, mais qu'on a redécouvert, qui permet de lutter contre la biorésistance aux antibiotiques. Vous savez, ce sont les fameux phages, ces virus qui s'attaquent aux bactéries, etc. Bon, et je trouve qu'il y a un pays qui a conservé cette thérapeutique, alors que partout ailleurs, elle avait disparu à cause du succès des antibiotiques, c'est la Géorgie. Et donc, ce reportage sur Arte, qui était passionnant, c'était il y a quelques jours, montrait des Français...
Ils font du tourisme médical
absolument,
en Géorgie.
Vont en Géorgie se soigner.
C'est pour ça que je posais la question, c'est une vraie question, ça marche vraiment.
Agnès Buzyn l'a dit, d'ailleurs.
J'aimerais bien qu'on
prenne
en compte...
Elle a parlé de fantasmes, la ministre de la Santé.
Oui, mais si vous voulez, il y a des fantasmes, il y a aussi des choses qui s'expliquent tout à fait, il y a des comportements qui peuvent être également tout à fait rationnels, et je pense qu'il faudrait avoir une vision un petit peu d'ensemble et comparative, et qui inverse aussi les points de vue, qui regarde toutes les perspectives pour vraiment traiter de tout ça sérieusement.
Il y a une question de Claude sur franceinter.fr que je trouve plutôt intéressante, qui dit « Bonsoir, comment envisager de recruter des diplômés étrangers alors qu'il n'y a pas d'équivalence entre les diplômes français et les diplômes étrangers ?» Là aussi, il y a un travail à faire pour la trouver, cette équivalence.
C'est très important et c'est justement une des questions qui se soulève au Canada. Encore une fois, 300 000 personnes chaque année immigrent au motif du travail au Canada, et parmi eux, un certain nombre de très diplômés. Donc, il y a toute une question qui est liée justement à la reconnaissance des diplômes afin de lutter contre ce que l'on appelle le déclassement. C'est-à-dire qu'une personne qui a un certain niveau de compétence, qui dans son nouveau pays, va effectuer un emploi qui est de bien moins bonne qualité.
Merci beaucoup, merci vraiment à tous les deux pour la qualité de ce débat. Merci à vos questions comme d'habitude et portez-vous bien.